Bonjour et bienvenue sur Radio Linguistica, l'émission de formation et d'information pour les traducteurs de la DGT. Cette radio est la vôtre, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos idées, de vos suggestions et de vos remarques en nous écrivant à dgt-radio@ec.europa.eu. dgt-radio@ec.europa.eu. Europa.eu. Alors, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc van Dommelen, qui va nous parler du SCIC et du travail des interprètes aujourd'hui à la Commission européenne. Marc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Tu m'as appris, Caroline.
Vous travaillez au SCIC, vous avez été
Oui.
longuement interprète avant de devenir chef de l'unité accompagnement professionnel des interprètes. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots en quoi consiste votre travail?
Le travail de l'interprète, évidemment, c'est une profession étroitement liée à celle du traducteur, évidemment. Donc, on communique tous les deux d'une langue à l'autre, de plusieurs langues, normalement vers la langue maternelle, dans votre cas. Et dans notre cas, également. Et donc, le travail d'interprète des conférences à la Commission européenne, en général, c'est un travail, ça dépend un peu des langues, mais qui se fait en cabine, donc en simultané. Donc, on a beaucoup de réunions multilingues, même avec 20, 20, 23, 25, 30, plus que 30 langues parfois. Donc, les délégués s'expriment dans leur langue et nous, on traduit cela. Et donc, il y a autour de la salle jusqu'à une trentaine de cabines avec des interprètes. Et donc, le travail de l'interprète de conférence en simultané se fait comme ça. Mais il y a aussi un travail d'interprète plus classique, disons, qui s'appelle la consécutive, qui date déjà, parce que en fait la simultanée est née avec les procès de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale. Tandis que, par exemple, le congrès de Vienne, après les guerres napoléoniques, se faisait en consécutive. Mais ça veut dire que l'orateur parle pendant 5 minutes, on l'interrompt s'il n'a pas terminé, et on traduit. Au Congrès de Vienne, on traduisait dans plusieurs langues aussi. Donc, chaque intervention de 5 minutes se multipliait tout de suite en 20 minutes, disons, de compte-rendu interprété. Donc, avec la consécutive, on perd du temps. Et l'avantage de la simultanée, c'est en direct et en principe, on ne perd pas le temps qu'on perd avec la consécutive. Donc, donc mon travail, effectivement, donc j'ai commencé ici à la Commission européenne en 1994. Donc, je travaille en cabine néerlandaise, comme on dit. On appelle, donc, OK, les interprètes sont en cabine, mais on appelle l'unité linguistique néerlandaise aussi la cabine néerlandaise, ou la cabine anglaise, ou la cabine grecque. C'est aussi l'unité dans notre speak d'interprète. Et voilà, c'est ça un peu le travail qu'on fait ici.
D'accord, très bien. Et donc, vous avez parlé d'interprétation consécutive et d'interprétation simultanée. Donc, on fait essentiellement l'interprétation simultanée à la Commission européenne. Et je sais qu'il y a un troisième type d'interprétation, c'est l'interprétation chuchotée. Mais ça, j'imagine que vous ne le pratiquez pas, ou ça arrive?
Si, si, ça arrive aussi, même quotidiennement. Ça, donc, pendant les repas, ça, on peut aussi faire la simultanée. Évidemment, là, nos clients, disons les ministres, pendant un repas, doivent porter des écouteurs, sinon ça ne marche pas, doivent avoir un micro. Mais il est aussi possible que, spécialement s'il y a des rencontres, par exemple, entre un commissaire et un ministre, parce que là, on parle plutôt de, pas exclusivement, mais quand même souvent du niveau politique, il y a un interprète entre les deux, comme on le voit à la télé quand Obama parle avec, ou quiconque parle avec avec d'autres personnages importants. Donc, l'interprète est parmi les deux et quelqu'un pose une question, l'interprète la traduit, la réponse, l'interprète. Donc, ça, c'est du chuchotage. Donc, sans prise de notes, sans équipement de simultané, quoi.
C'est ça. Est-ce que vous avez pratiqué le chuchotage?
Moi, donc, toutes ces différentes formes d'interprétation, c'est fortement lié à la combinaison linguistique qu'on a. Donc, moi, comme j'ai une combinaison, donc je interprète vers le néerlandais, mais j'ai anglais, français et allemand, mais surtout le grec. C'est une combinaison, oui, si je l'ai fait une fois. Mais c'est très rare avec ma combinaison linguistique. C'est plutôt des interprètes bilingues ou qui ont un retour vers une autre langue que leur langue maternelle. Je me rends compte que je parle un peu maintenant en
Techniquement,
anglais.
c'est ça, de façon technique. Mais on comprend très bien. Oui, j'ai tout à fait saisi ce que vous vouliez dire. Oui, il n'y a pas de problème.
Ok.
Mais on reviendra d'ailleurs sur ces questions-là. Et on reviendra également sur votre casquette de chef de l'unité accompagnement professionnel des interprètes. Mais ça, on va y revenir. Oui, c'est pas
Faisant
ça.
fonction. Faisant
Faisant
fonction.
fonction, chef de l'unité faisant fonction, bien entendu. En fait, je voudrais commencer par une question de terminologie. On parle du SCIC, mais on parle aussi de la Direction générale de l'interprétation. Alors, est-ce que c'est la même chose? Et au fond, qu'est-ce que ça veut dire l'acronyme SCIC?
Ouais. Donc l'acronyme SCIC, en fait, c'est la même chose. DG Interprétation et DG SCIC, c'est tout à fait la même chose. L'acronyme, quand on a fait ce changement, quand nos DG, non, quand nos services à l'époque, parce que c'était le service des traductions et le service conférence interprétation de, non, service commun interprétation-conférence. C'est
Okay.
ça, parce que déjà à l'époque, on faisait pas seulement interprétation, on organisait, comme on organise maintenant, beaucoup plus encore de grandes conférences.
Oui, ça, on va y
Donc, c'est
revenir aussi.
ça, l'acronyme, et ça, oui, et c'est la même chose. Donc, quand le service de traduction a devenu DGT, nous sommes devenus DGSKIC ou bien DG Interprétation.
C'est ça. Bah, justement, j'ai quelques questions sur le SCIC, plus sur l'organisation de votre DG. Combien de personnes travaillent au SCIC, en gros?
Donc, on a entre 600 et 6, 500 et 600 interprètes, staff, donc des fonctionnaires ou des agents temporaires aussi. Donc, ça, c'est la direction A, les interprètes. Donc, ça, évidemment, c'est la partie la plus grande de l'ADG. Mais on a aussi donc beaucoup plus. On a une liste d'interprètes agréés qui font un test. En fait, moi, j'ai commencé comme ça, un test freelance qui sont agréés à titre personnel. Donc, ce ne sont pas des sociétés, c'est un agrément individuel. Et sur la liste, il y a environ 2000 interprètes. Mais il y a beaucoup d'entre eux. Disons, ne travaille très rarement parce qu'il y a par exemple des interprètes japonais qui travaillent avec les Japonais quand il y a une rencontre, soit au niveau de la commission, soit au niveau du conseil ou n'importe où. On fait appel à ces interprètes avec les Japonais, le russe, l'arabe, des langues plus exotiques aussi, hein, le géorgien. Donc, c'est pour ça que la liste est très longue, mais on fait aussi appel quotidiennement à des interprètes avec des combinaisons linguistiques plus banales, disons, comme la mienne, avec des langues de l'Union européenne, quoi.
C'est ça. Et vous diriez que dans une semaine de travail classique pour la Commission européenne, je ne sais pas si on peut vraiment parler de travail classique pour la Commission européenne, mais vous faites appel à combien d'interprètes? Ou disons, la Commission fait appel à combien d'interprètes?
Ben,
C'est
disons que
difficile à dire.
le nom de le ratio entre staff et entre fonctionnaires et interprètes auxiliaires de conférences, AIC, ça s'appelle comme ça, le ACIs, donc le freelance en fait, est plus ou moins 50-50. Ça change par ça, bon, évidemment, les deux trois les deux pendant les 2 années passées, on a eu relativement, donc, en regardant au cours du temps, très peu de travail, parce que toute l'industrie de conférences, le voyage aussi était fortement limitée, évidemment, par le Covid. Et là, on travaille uniquement avec les interprètes fonctionnaires. Mais disons, globalement, c'est plus ou moins 40, 60, 50, 50. Donc, on travaille quand même quotidiennement avec des interprètes freelance, tout à fait.
Et est-ce que vous êtes organisé en département linguistique comme nous à la DGT?
Oui, tout à fait.
Oui,
Ouais, ouais,
pareil,
ouais, ouais.
d'accord.
Donc, on a la direction A, donc ce sont telles interprétations. Et il y a 3 départements, oui, et puis les unités linguistiques.
C'est ça, ok. Est-ce qu'il vous arrive de travailler avec d'autres institutions? Est-ce que vous travaillez parfois pour le Conseil ou pour le Parlement européen?
Oui, donc ça, c'est une grande différence, je pense, par rapport à la DGT. Donc, même si nous sommes une DG de la Commission, en pratique, on travaille un peu comme un service interinstitutionnel, parce qu'en fait, le Conseil est de loin notre plus grand client,
C'est ça.
le Conseil de l'Union européenne. Donc, c'est entre 2 tiers, 3 quarts de notre travail. Et puis, OK, la Commission européenne, c'est, disons, entre 15 et 20%. Le Comité économique et social, le Comité des régions, c'est aussi moins de 10%. Ça change évidemment au fil du temps. Et puis, on travaille, disons, grosso modo, on fait tous les organes et institutions que les services d'interprétation du Parlement européen et de la Cour de justice ne font pas. Donc,
C'est ça.
plus ou moins, hein, à part la Cour de justice et le Parlement européen, on fait tout le reste.
D'accord.
Donc, on est beaucoup plus grand que le service d'interprétation du Parlement européen parce qu'on a.
D'accord. Et vous parliez tout à l'heure de traduction retour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, ce terme technique, qu'est-ce qu'il recouvre en fait?
Oui. Enfin, on a comme ça un peu des termes vraiment spécifiques à notre métier. Oui, donc quelqu'un est un retour ou fait un retour, un interprète qui fait un retour ou un interprète retour. C'est quelqu'un qui travaille qui travaille, disons, dans la cabine grecque, je dis quelque chose. Mais on a ça s'appelle un channel switch. Donc, on a un bouton sur le console avec le micro et où on branche les écouteurs. Il y a un bouton, on peut changer. Il faut que le output channel devient, par exemple, normalement pour la cabine grecque, c'est le canal grec. Évidemment, le délégué grec est branché sur le canal, c'est le canal 7, je crois. Ça change aussi. Et là, l'interprète, quand il active le channel switch, ce que l'interprète dit sort, par exemple, sur le canal français. Et donc, quand le délégué grec parle, au lieu que la cabine française se tait parce qu'il y a quelqu'un en cabine grecque qui traduit le grec vers le français et qui a donc une deuxième langue active, parce que c'est ça en fait. Donc on parle de langue active et de langue passive.
Et donc, on peut avoir plusieurs langues actives. On peut
Oui, oui.
c'est votre cas, par exemple?
Non, non, moi je travaille seulement vers le néerlandais.
Vers le
Donc
néerlandais.
moi j'ai pas de retour. Et en fait il y a des interprètes qui font retour, qui font une langue, par exemple le grec vers le français, mais il y a aussi des interprètes qui font la double cabine, ça s'appelle, qui travaillent, qui ont une combinaison linguistique en cabine française et en cabine anglaise,
C'est
qui
ça.
travaillent, ouais, qui ont 2 langues actives. Ouais.
Mais justement, j'aimerais qu'on aborde le travail au quotidien des interprètes à la Commission. Comment ça se passe? Alors, j'imagine qu'il y a une première étape qui est la préparation. Hein, on se prépare à la réunion, on se prépare à la conférence à laquelle on va participer. Est-ce que les intervenants à la réunion envoient les documents à l'avance? Est-ce que vous avez des documents sur lesquels vous pouvez vous baser?
Oui, donc en fait, c'est Ah, c'est ça, c'est mon métier. Hein. Ça, c'est mon métier, en fait. Hein, donc, de mettre à disposition des interprètes les documents et de donner, de fournir un soutien terminologique et aussi de fournir des formations,
C'est ça.
soit linguistiques ou bien thématiques aux interprètes. Oui,
Donc ça, c'est
comment
la
ça se
casquette
passe?
accompagnement professionnel des interprètes.
Oui,
Ça, c'est
tout à
ça.
fait.
D'accord. OK,
Ouais,
oui.
tout à fait.
OK.
Oui, comment ça se passe quotidiennement? Oui, donc on n'a pas, les interprètes n'ont pas de bureau. Hein. On a pas de bureau, jamais. On a une petite salle avec un casier où dans le temps on recevait encore de la poste sur papier, où il y avait
Oui.
encore le courrier à la Commission européenne. Et désormais, bon, il y a quelques ordinateurs là. Donc on a une salle pour plusieurs cabines, pour plusieurs unités linguistiques. Et donc on se prépare à la maison en général, donc chez soi. On reçoit effectivement les documents, les mêmes documents que les participants de la réunion reçoivent, donc l'agenda, les documents, l'ordre du jour, les documents à discuter. On les regarde, ça dépend. Parfois, on sait exactement de quoi ils vont parler. Parfois, on a une idée un peu moins précise. Donc, on se prépare chez soi. Et en général, la réunion commence assez tard. Hein. De ce point de vue-là, on a une vie de luxe. Donc, classique, c'est 10 heures. On commence à 10 heures le matin. Les interprètes sont toujours à l'heure, évidemment. Être en retard, ça se fait
Impossible.
pas, c'est impossible. Même, je veux dire, on commence à 9 heures aussi, hein, c'est 9 heures, 9 heures et demie, mais souvent c'est 10 heures, spécialement au conseil, parce que les délégués souvent viennent de chez eux, des capitales, ils voyagent le matin très tôt, et donc, et on travaille, disons, généralement, avec ma combinaison linguistique, on est trois en cabine. On est soit deux, soit trois, comme règle générale. Donc, disons trois en cabine. On fait des tours d'une demi-heure. Là aussi, il y a des différences, mais et on travaille bon, le matin, l'après-midi jusqu'à 6h30. Ça dépend aussi du niveau. On travaille aussi la nuit, évidemment. S'il y a
C'est
des
ça, oui.
réunions nocturnes, le Conseil pêche, le Conseil européen. Ça dure toute la nuit, et le conseil pêche, ce qui arrive souvent, que ça, on a plusieurs équipes de nuit, on travaille jusqu'à 7 heures du matin, à 7 heures l'équipe prochaine prend le relève et jusqu'à la fin de la réunion.
C'est ça.
Donc ça arrive, oui.
Et alors, je sais que vous avez développé, en particulier vous et votre unité, des outils numériques dont les interprètes peuvent se servir soit au stade de la préparation, soit en cabine.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces outils?
Oui. Donc là, je pense en général, c'est pas à une traductrice que je dois le dire, parce que là, on a vraiment pris l'exemple, le monde de la traduction. Donc moi, j'étais traducteur avant de devenir interprète, et aussi pendant ma carrière au ski, que j'ai fait une année à la DGT. Et donc, je connais bien le monde de la traduction quand même. Et je veux dire, par rapport à il y a 20 ans, c'est vraiment ça, ça a complètement bouleversé. Maintenant, l'interprétation a beaucoup changé dans les 2 années pendant et après le Covid aussi. Mais c'est quand même, c'est de la chance, disons, la digitalisation, c'est quand même arrivé beaucoup plus tard par rapport à. Et donc on a pensé qu'à un certain moment qu'il faudrait quand même aussi, avec tous les instruments que vous avez, faudrait Euramis, parce que c'est
Oui.
très utile pour les interprètes aussi d'avoir
Oui.
évidemment de pouvoir se préparer, avoir des mémoires en plusieurs langues. On voit le contexte, c'est formidable. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé, à un certain moment, on a depuis toujours une petite unité terminologique. À un certain moment, on a décidé, écoutez, il faut mettre ça en commun. Et l'instrument qu'on a dans l'Union européenne pour faire ça, c'est IAT. Et donc, on a décidé, on a pas fait beaucoup de travail, mais c'est un travail énorme de migrer notre terminologie dans IATE. On a, disons, ça va être fini vers la fin de l'année. On a fait un gros travail aussi par rapport à la qualité de notre terminologie, parce que je veux dire là aussi, vous avez plus de temps et aussi une structure, des structures beaucoup plus grandes. On
Oui,
a,
plus de
je
temps,
pense
je ne suis
qu'on
pas sûre, mais
a. Non, non,
mais des
non,
structures, oui.
on a. Oui.
Effectivement, oui. Nous, on a une, oui, enfin, vous dites que vous avez une unité d'interprétation. Nous, on a aussi, oui, une unité qui coordonne, une unité qui coordonne la terminologie, pardon. Et on a des terminologues dans chaque département linguistique, oui.
Ok, oui, donc on travaille étroitement avec eux et avec les autres services de traduction dans le cadre des IATU. Et effectivement, on a créé donc une interface spéciale pour les interprètes, comme on a aussi créé une nouvelle interface pour la documentation qui est mise à la disposition des interprètes parce que c'était vieux. On avait vraiment besoin et donc le projet. L'ensemble du projet, ça s'appelle The Interpreter Digital Toolbox. Et là, ça fait 2 ans qu'on y travaille dessus. Et disons que donc l'interface IATU, pas bon, on peut le voir, hein, quand on se connecte à IATU, on peut choisir entre l'interface classique et l'interface Interpreter's View, ça s'appelle le nom
Ah oui,
qu'on
d'accord.
peut choisir aussi dans son profil. Hein.
D'accord.
Oui.
Et vous avez aussi Lithos, c'est ça?
Oui,
J'ai un
oui,
moteur de recherche.
oui, 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 oui. Ça, on a depuis longtemps. Et donc, c'est similaire en fait à IATE, sauf qu'il y a seulement notre terminologie à nous là-dedans. Et ça a été développé par un interprète de la cabine française, Pierre Libotte, qui a développé ça il y a 15 ans, je pense. Il a développé ça tout seul et ça marche très bien. C'est un petit moteur de recherche. Mais donc, ça ne marcherait pas avec une banque de données si grande parce que notre terminologie, c'est plus ou moins 200 000 termes. Bon, IATU, c'est 8 millions de termes. Donc, là, on a besoin quand même de technologies plus poussées pour faire marcher tout ça. Et c'est ça le motif. Bon, à part c'est logique de mettre de travail parce qu'on travaillait quand même plus ou moins sur le même sujet, tout le monde, les traducteurs, les interprètes. Donc, je veux dire, c'est vraiment logique de mettre ça en commun, je pense.
C'est ça. Donc vous êtes vraiment en collaboration étroite avec la DGT, en fait, hein,
Oui,
sur les questions de terminologie. D'accord.
tout à fait, tout à fait, mais aussi sur d'autres sujets, hein,
Sur quels autres sujets, par exemple?
par exemple, je pense que là, une fois par an, hein, la remise de prix du concours Jóvenes Translatores,
Oui,
oui,
tout à fait.
ça c'est par exemple, je pense que c'est la plus grande conférence avec interprétation que la DGT organise. Et bon, comme c'est une occasion spéciale pour la DGT, et nous je pense que c'est avec un régime linguistique assez grand aussi. Je pense que c'est avec toutes les langues de l'Union européenne. Hein. Et donc là, par exemple, ben, on travaille aussi avec la DGT. Il y a un comité pour interinstitutionnel pour les services linguistiques. Et il y a un travail. Il y a beaucoup au niveau. Je veux dire, moi, j'ai travaillé à la DGT, mais je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'interprètes qui ont travaillé, qui ont commencé comme traducteurs et puis sont passés au SCIC, ou bien ils
Ou
sont, sont,
inversement,
sont
ouais.
ou inversement. Oui, tout à fait. Il y a quand même beaucoup de contacts personnels, je pense, là.
Je me demandais, Marc, est-ce que la pandémie, donc la crise de la COVID, a des conséquences sur votre travail?
Oui, donc je pense que j'ai déjà mentionné quelque chose. Oui, donc tandis que je pense que vous étiez déjà habitué au télétravail et je me souviens, ben, je pense que tout le monde se souvient le premier lundi quand on est passé en confinement. Là, au début, il n'y avait plus de réunions possibles hein, parce que les gens ne pouvaient pas voyager. Donc, et il y avait pratiquement les premières semaines, certainement, il n'y avait presque pas de travail, sauf au niveau politique. La commission, le collège et les commissaires ont toujours continué à se réunir et aussi le COREPER en général, même le Conseil européen au début était à distance. Donc, ça a eu des conséquences énormes sur l'interprétation, mais surtout toute l'industrie de voyage et de conférences.
C'est ça.
Heureusement, on avait déjà collaboré pour l'élaboration d'une norme technique pour des plateformes comme Teams, en fait, comme il y a Teams, mais qui n'a que deux canaux audio, mais il y a des plateformes qui sont faites, en fait, qui ont été créées pour l'interprétation. Et donc, on connaissait déjà ces plateformes et on a vite pu choisir, oui, la plateforme la plus idoine pour nos besoins, Interactio. Donc, c'est une société privée qui avait créé ça et ça permet de faire comme Teams des réunions en ligne, mais avec une cinquantaine, je crois, de canaux audio. Donc, je pense que ça a été même élargi après. Donc, on peut même maintenant, on peut faire des grandes réunions et on le fait tous les jours à distance. Les réunions de la commission, plus que la moitié, je pense même la deux tiers, se font avec cette plateforme Interaction maintenant. Donc,
C'est ça.
oui, c'est aussi un truc qui va très bien avec le greening of the commission. Donc, il y a beaucoup moins de missions maintenant parce que les délégués ne voyagent plus. Tandis que le conseil a choisi de repasser
En présentiel.
en présentiel et
C'est
continue à
ça.
faire place que toutes les réunions sont en présentiel maintenant. Oui.
C'est ça, OK. Alors, vous avez parlé plusieurs fois d'organisation des conférences, d'organisation des réunions. En fait, ce qu'on ne sait pas forcément à la DGT, c'est que le SCIC ne fait pas que de l'interprétation. C'est-à-dire que vous offrez en priorité, évidemment, c'est votre core business, des services d'interprétation, mais vous offrez beaucoup d'autres services. Et notamment, par exemple, c'est le SCIC qui est en train d'enregistrer notre émission aujourd'hui. Donc, c'est grâce aux techniciens du SCIC que nous pouvons faire cette émission de radio. Donc, on en profite pour les remercier. Et donc, je sais que vous êtes domain leader, ce qu'on appelle domain leader, pour la gestion des conférences, des salles de réunion. Vous pouvez nous en dire quelques mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement.
Oui. Oui, donc c'est vrai que c'est une activité relative. Même si on a toujours géré la salle de réunion au centre de conférence de la commission, au Borchette, par exemple, mais c'est une activité qui a pris une ampleur énorme parce que quand dans l'exercice de Synergies and Efficiencies, on a pris ce rôle de domain leader. Par exemple, on gère en principe toutes les grandes salles. On a trois types de salles qu'on fournit, qui ont un équipement standard pour vidéoconférence, pour table, chaises, etc. Et ce sont des centaines de salles dans toute la commission qu'on gère et qui sont en principe ouvertes pas seulement aux personnes qui travaillent dans un bâtiment. Donc, c'est l'idée de mettre ça en commun et de partager de façon beaucoup plus efficace ces structures et ça marche très bien. Et comme je disais, ça a pris une ampleur vraiment impressionnante. Oui.
C'est ça. Pour terminer, j'aurais aimé évoquer en quelques mots l'interprétation en langue des signes. Est-ce que donc l'interprétation qui est destinée aux personnes sourdes et malentendantes, est-ce que c'est un service que vous offrez au SCIC?
Oui, tout à fait. C'est un service qui a une importance politique. Bon, évidemment, c'est pour les personnes qui en ont besoin, mais qui a aussi un cachet politique parce que ça se fait, par exemple, pour toutes les conférences de presse de la Commission européenne. Donc, chaque mercredi, après la réunion de la Commission, il y a la conférence de presse que plusieurs commissaires viennent introduire les propositions qui ont été adoptées. Et là, il y a toujours l'interprétation en langue des signes. Et ça se fait en international sign. Donc, parce qu'il y a en fait des. Oui.
Ah, c'est ça.
Parce que oui, ce serait vraiment trop compliqué de fournir l'interprétation des signes dans les langues des signes nationales. Donc, on a choisi dès le début de fournir l'interprétation des signes
En langue
en
internationale,
langue.
en fait,
C'est
la
ça, tout
langue
à fait, tout à
reconnue
fait.
mondialement. D'accord,
Oui,
ok.
mais on le fait aussi pour d'autres réunions, hein. C'est une question. On peut demander ça. En fait, on a un outil informatique, hein, pour toutes les DG de la Commission. On peut demander ça dans cet outil. Ouais.
Très bien, ok. Je vois qu'il nous reste encore une petite minute. Est-ce qu'on pourrait juste évoquer le KCI? Alors, le KCI, en tant que traductrice web à la DGT, j'ai été amenée à traduire une série de pages pour cette plateforme qui a été mise en place, je pense, récemment par le SCIC. Donc, KCI, c'est Knowledge Center on Interpretation, donc Centre de connaissances en matière d'interprétation. Est-ce qu'en quelques mots, parce que je sais que ce n'est pas vous qui gérez cet aspect, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est ce KCI et à qui il est destiné?
Oui, donc le Knowledge Center on Interpretation, donc c'est une plateforme en fait qui cherche de réunir des connaissances par rapport à l'interprétation, parce que nous nous sommes rendus compte, on a le plus grand service d'interprétation au monde, mais il faudrait aussi élargir un peu les horizons, parce qu'il y a en fait énormément de monde partout dans le monde qui nous regarde, qui avait des attentes, et ces attentes n'étaient pas vraiment remplies, disons. Et donc, ce sont des communautés. Donc, chacun peut devenir membre des communautés. Et d'ailleurs, si on le google dans le Center on Interpretation, on le trouve tout de suite. Les universités, les écoles d'interprètes utilisent beaucoup le Knowledge Center on Interpretation, mais aussi beaucoup, c'est aussi, il y a aussi un axe de community interpreting, autre type d'interprétation que nous ici à la Commission européenne ou dans l'Union européenne ne fournissons pas, mais on a quand même beaucoup de connaissances et on cherche un peu de réunir tout ce savoir au service de l'Europe aussi, ouais, parce que je veux dire l'interprétation juridique dans les tribunaux, l'interprétation dans le monde médical. Il y a pour les patients, il y a des outils aussi qui s'utilisent beaucoup. Donc, on trouve qu'on a quand même un rôle à jouer là aussi en tant que centre de référence, disons, pour l'interprétation en général.
Eh bien, je crois que nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission. On aurait pu parler encore 2 heures. C'était vraiment passionnant et on n'a pas pu couvrir tous les sujets qu'on espérait couvrir, mais peut-être que ce sera l'occasion d'une autre émission si vous êtes de nouveau disponible. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie. C'était vraiment un honneur d'être là pour
Merci
parce qu'on a quand
beaucoup.
même deux professions et deux DG
Tellement proche, tellement
tout
proche
à
que
fait. Ouais.
c'est intéressant de savoir à quel point nous collaborons en fait.
Tout à fait.
Je voulais aussi remercier donc encore une fois les techniciens du SCIC, n'est-ce pas, qui enregistrent cette émission. Merci également à nos auditeurs et n'oubliez pas que cette radio est la vôtre. Donc n'hésitez pas à nous envoyer de nouveau vos idées, vos commentaires et vos suggestions à dgt-radio@ec.europa.eu. Eh bien, bonne fin de journée.